Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop content de te partager cette nouvelle série d'épisodes. Et ce coup-ci, il ne s'agit pas d'épisodes en solo, comme récemment dans le marathon du podcast, mais d'interviews avec des photographes inspirants. Le marché de la photographie est en constante évolution et je trouve que ces dernières années, il y a à la fois d'énormes opportunités et en même temps, ces changements peuvent aussi, dans une certaine mesure, faire peur. Du coup, dans cette série de 8 épisodes, j'ai décidé d'aller interviewer des photographes qui, pour certains, sont lancés depuis plus de 15 ans et d'autres qui ont démarré leur activité beaucoup plus récemment. L'idée, c'est de te proposer des interviews croisées. Et du coup, à chaque fois, à ces 8 photographes, je leur ai posé les 3 mêmes questions. Nos échanges, clairement, ont été passionnants, tu vas le voir. Et aujourd'hui, c'est au tour de Solveig qui va répondre à mes questions. Et tu vas le voir, elle va te partager énormément de pépites pour t'aider à faire les bons choix dans ton quotidien et pour t'aider aussi à développer ton activité. Avant de te laisser avec l'épisode du jour, j'ai le plaisir de t'annoncer aussi officiellement que Solveig sera mentor dans le Winter Club qui arrive tout bientôt. Elle va intervenir pour nous parler d'intuition, d'écoute de soi et de comment mettre le plaisir et la joie au centre de son activité. Je t'en dirai plus à la fin de l'épisode, mais tu peux d'ores et déjà aller voir en description pour t'inscrire sur la liste d'attente de l'événement. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut, je m'appelle Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans le podcast du photographe. Je te propose de t'inspirer pour transformer tes images et toute ta vie. Grâce aux interviews d'invités de prestige et avec mes propres retours d'expérience, j'ai à cœur de t'aider à créer des photos qui te ressemblent, des photos fortes en émotion, afin que tu puisses bâtir une entreprise qui met en son centre l'expérience client et aussi qui tu es vraiment. Sur le podcast, on parle photo, tu l'auras compris. Il est aussi question d'état d'esprit, de vision, de marketing, de business ou encore de créativité. Je suis photographe depuis 2012 et j'ai choisi en 2016 d'élargir mon activité en partageant tout ce que j'avais appris et expérimenté ces dernières années au travers de contenus en ligne et de formations. En 2020, j'ai passé une autre étape en créant la Grau Academy, le premier programme d'accompagnement qui aide les photographes à se créer une entreprise pleinement alignée. Et pour tout te dire, j'en suis vraiment extrêmement fier. Maintenant, revenons au podcast du jour, je te souhaite une très belle écoute.
Bonjour Jérémy.
Je suis hyper content aujourd'hui de te retrouver ici dans cet épisode de podcast. Pour te présenter rapidement, nous on se connaît depuis je pense 7 ans à mon avis, 7-8 ans peut-être, je ne sais plus.
2014 je crois.
2014, donc nous sommes en 2022, donc oui c'est ça passe, le temps passe. Ça fait 8 ans. Moi j'ai toujours apprécié déjà ton travail. Ça, c'est, je trouve que c'est important, c'est la base, tes images. Et aussi ta personnalité, parce que je pense que dans la photographie, il y a vraiment un côté sensible qui est important à avoir. Et je trouve qu'avec ton regard artistique, peut-être que tu en parleras aussi, avec ta sensibilité, avec ton vécu peut-être, avec tout ce que tu as autour de ça, tu arrives à développer une activité où tu fais de la photo, bien évidemment, tu es photographe, avec une vraie touche, avec une vraie personnalité, avec une vraie sensibilité, et je trouve que c'est quelque chose qui est important. Donc, voilà, je tenais à te le dire, et je te remercie aussi d'avoir accepté d'enregistrer ce petit épisode aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux, toi, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y en a, et leur dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tout ce qui te semblera important.
Avec plaisir. Donc, alors, moi, je suis Solveig. Donc, j'ai un duo fantôme, puisque mon amoureux n'est pas présent aujourd'hui, mais on nous connaît sous nos deux prénoms, donc Solveig et Ronan. Puisqu'on a débuté avec donc aujourd'hui mon mari, puisqu'on s'est marié, cette activité ensemble, et aujourd'hui on la poursuit ensemble, mais voilà, la partie photo maintenant c'est uniquement moi, donc je suis photographe depuis officiellement l'année 2012, donc ça fait un petit moment, voilà, j'ai 36 ans, j'ai fait des études artistiques, beaux-arts en Normandie, et puis ensuite j'ai rapidement monté mon entreprise qui est de la photo sociale, photo de mariage, photo de famille, donc tout simplement... Après mes études artistiques, puisque ça se présentait de façon totalement naturelle, vu que j'en faisais déjà un petit peu pour payer mes études.
D'accord.
Et que je prenais beaucoup de plaisir dans le contact humain et la création avec ce support humain. Voilà,
c'est pour ça que tu es venue à la photographie, du coup ?
Oui, alors après, il y a, je pense, différentes explications quand on réfléchit un petit peu à la genèse et au parcours, à la famille, etc. Donc, dans ma famille, il y a toujours eu un peu de photos du côté de mon père. Donc, mon grand-père paternel était quelqu'un de très créatif, qui était artiste, dessinateur. C'était pas son métier principal. Son métier principal, c'était de la mise en page d'un magazine People. Enfin, bon, bref. Mais il était artiste, donc il faisait beaucoup de photos en fait, photos de famille, des photos qui circulent et que je trouve très créatives, très artistiques, très belles depuis que je suis toute petite. Et la photo, c'était un peu quelque chose de complémentaire avec les autres pratiques artistiques qui étaient le dessin, la gravure, la sculpture. Donc c'est quelque chose que mon grand-père a développé et que moi j'ai développé très petite parce que je trouvais ça très attirant et j'ai sûrement hérité de ça, de ce côté-là. Mon père faisait de la photo aussi, photo de voyage. Donc, voilà, j'ai baigné quand même pas mal dans les images. C'était plutôt de la photographie argentique.
Ouais.
Et je faisais de la photo aussi gamine, en fait. Alors, ça a toujours été quelque chose de normal de faire de la photo, mais de façon simple, familial en fait, du reportage de famille ou de voyage ou avec cette touche de culture artistique parce qu'on est toujours allé dans les musées, on a cette culture artistique dans la famille et je pense qu'il y a un regard qui s'est développé assez naturellement et voilà. Donc en fait, la photo, ça a jamais été un projet en soi dans ma tête. Ça fait partie de ma vie et je me suis jamais dit je vais devenir photographe, mais je le suis devenue parce que c'est normal. Je pense que ça coulait de source par rapport à
À
ma
ton
vie, ma
histoire.
personnalité. Et puis c'est relié aussi à Ronan, qui lui était photographe à l'armée, à l'époque où je l'ai rencontré. Donc il avait du matos photo, moi j'en avais pas. Et il me l'a prêté en me disant, bon, bah toi t'es à l'aise avec les humains, donc tu vas m'accompagner et tu vas leur parler. Et j'ai adoré en fait avoir le côté dialogue, posing, etc., que lui n'avait pas, mais lui il avait la passion de la technique, du cadrage et tout. Donc c'est lui qui m'a transmis le côté carré de la photo, on va dire. Et moi j'avais le côté humain et artistique. Donc en fait, ça a été un projet d'amour en fait, parce qu'on a commencé à deux en 2006, quoi. C'était officieux, hein. On faisait des petits jobs comme ça pour ses collègues militaires en fait.
Ah, mais c'est énorme. Attends, je savais pas tout ça. Franchement, Solveig, j'aurais 3 millions de questions à te poser. Parce que tu as dit, c'est trop intéressant. Je pense qu'on se refera un épisode de podcast dédié à tout ça.
Trop mignon.
Ah, c'est trop, trop bien. Du coup, je vais te poser 3 questions aujourd'hui. Le but de l'épisode, c'est de répondre à 3 questions, de faire un petit peu une interview au croisé avec plusieurs photographes pour savoir un petit peu où en est le marché de la photographie. Ce sera la dernière question. Et comment on peut faire aujourd'hui, ta question favorite, et comment on peut faire aujourd'hui pour se démarquer et sortir du lot? La première question, c'est pour toi, quelles sont les 3 choses depuis que tu as commencé, donc en 2012, qui ont eu le plus d'impact?
Alors vraiment, j'ai une première chose qui me vient en tête de façon directe, c'est les rencontres. J'étais dans un microcosme artistique bien spécifique de celui de l'art contemporain, du monde de l'art, mais en tant qu'étudiante. Et très rapidement, j'ai eu besoin de recréer ce microcosme dans le milieu de la photographie sociale, donc ou tout simplement dans mon milieu de photographe à Caen. Et voilà, et donc j'ai rencontré d'autres photographes, des gens qui tournaient autour de cet univers du mariage dans lequel je me suis rapidement intégrée. Et on a fait des projets artistiques ensemble, en fait, comme si on était encore étudiante en art, quoi. Enfin, et j'ai rencontré des nanas très vite, je crois que c'était en 2014, bah ouais, la même année, je pense, de notre rencontre à tous les deux. Et ça, c'est ce qui a, je pense, complètement permis de me porter artistiquement parlant, parce qu'en fait, moi, je suis pas forcément une créatrice dans sa tour d'ivoire et j'ai besoin d'un microcosme créatif et de me sentir entourée. Donc ça, c'est la première chose.
Ouais, c'est hyper important. Juste, j'ai une question à te poser là-dessus. Pour toi, du coup, d'avoir cet environnement, tu penses, c'est ce qui a fait que t'es pas rentré dans un côté, je sais pas comment dire, un peu train-train de, bon, il faut faire de la photo, faire de la photo sociale, il faut se lever le matin, mais d'avoir vraiment ce côté artistique dont tu parlais tout à l'heure?
J'ai jamais eu cette sensation de train-train clairement dans ce métier-là. Parce que à aucun moment je me suis dit je fais un métier. En fait, je crois que j'ai jamais vraiment conceptualisé ça en tant que métier. J'ai vraiment trouvé, c'est le côté artisan où tous les jours tu fais un truc nouveau, tu essaies d'imaginer des choses. Enfin, c'est un peu comme un jeu permanent. Enfin, pour moi, c'est du jeu, quoi. Mais en tout cas, clairement, je pense qu'au niveau de l'évolution artistique, créative et aussi l'image de soi, la confiance, le fait de rencontrer des personnes avec lesquelles on a pu développer des projets communs, ou alors tout simplement d'autres photographes avec lesquels on a pu échanger d'un point de vue business, même si ce n'est pas forcément le pan le plus intéressant pour ma part, bah, ça m'a porté et du coup ça m'a donné confiance et ça m'a permis de me dire. Ah bah oui, je suis pas toute seule à penser comme ça. Et en fait, franchement, quand tu crées un microcosme comme ça, quand tu rencontres des personnes dans ce domaine-là qui sont pas très loin, que tu peux voir toutes les semaines, des fois tu crées des délires artistiques, etc. Du coup, ça fait vachement évoluer en fait. Enfin, ça fait grandir. Et moi, je pense que je suis pas capable de grandir sans les autres. Hein. Déjà, c'était Ronan, mon premier mentor en fait hein, dans la photo, c'est lui qui m'a mis un appareil entre les mains en fait en me disant bah viens tu vas faire un mariage avec moi. Donc
T'as pas le
j'y
choix.
aurais pas pensé toute seule. Moi j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour me porter en fait.
Ok, trop bien. Du coup, la deuxième chose pour toi. Qui t'a porté justement, qui t'a permis de te lancer à tes débuts.
Alors de me lancer. Donc, c'était peut-être le côté facile. Alors, ça, c'est un peu, je suis pas sûre que ça soit un très bon conseil. Mais à l'époque, bah, l'auto-entreprise, c'était un truc normal, quoi. Et bah, quand voilà, j'étais plasticienne, je faisais des résidences d'artistes, j'avais un statut d'artiste-auteur. Qui était déjà, voilà, j'avais déjà un premier truc parce que bah, je crois qu'en 2008, j'avais dû le faire quand j'étais étudiante puisque j'avais été dans une résidence d'artiste. Et puis, bah, d'ouvrir sa propre entreprise en auto-entreprise, c'était hyper facile. Et comme je faisais déjà de la photo de tout, en fait, enfin, je me suis dit, bah, ce serait quand même pas mal de se professionnaliser, en fait, officiellement. Et les démarches étaient simples. Donc, ça a été, voilà, cette facilité, je pense que comme j'ai quand même, artistiquement parlant, j'ai plein d'idées, plein de motivation, mais quand même, je suis un peu feignante dans tout ce qui est administratif. Et
Je rigole parce que je
malheureusement,
te comprends tellement, moi c'est pareil.
oh non, mais ouais, donc j'ai de la facilité, c'était de dire, bon, bah, je me lance en auto-entreprise. C'était un peu un truc vraiment, ouais, c'est facile, on s'est même pas sûr si ça marche pas, bah, on s'en fout en fait. Enfin, sans aucune pression. Et franchement, ça m'a aidé à m'amuser et à continuer mes délires en fait, créatifs, sans poser la question de la pérennité de mon entreprise en fait. C'est pas forcément un très bon conseil ce que je dis.
Non, mais moi je trouve au contraire, parce qu'en fait le truc c'est que parfois on met beaucoup d'enjeux, on se met beaucoup de pression, et c'est parfois dans ces situations-là où en fait on fait les mauvais choix parce qu'on fait des choix dans la peur et tout, tu vois. Et je trouve que c'est un super conseil parce que de dire, ben, je l'ai senti, j'y suis allé, tu dis c'est facile, et en fait je pense qu'en fait c'est toujours le regard qu'on porte sur les choses. C'est parce que pour quelqu'un, la même action, elle va être difficile ou facile. Tu as choisi que ce soit facile parce que c'était comme une continuité peut-être, et tu t'es dit, bah, c'est vraiment ce qui m'inspire, j'y vais en fait. C'est aussi une perception, tu vois. Et je trouve que c'est un très bon conseil de dire à quelqu'un aujourd'hui, bah, vas-y en fait, si tu as envie, lance-toi et tu vas t'éclater, tu vas mener des projets. Bah, si ça marche pas, ça marche pas, et peut-être pas mettre trop d'enjeux en fait.
Ouais, c'est vrai que cette notion d'enjeu, elle est très importante et ça dépend des personnalités. Mais quand on a tendance à avoir quand même un manque de confiance en soi, qui se voit pas forcément de prime abord, mais souvent les créatifs, les artistes, enfin, sans vouloir m'appeler moi-même artiste, mais voilà, je suis quand même créative. On a quand même un côté, on a plein d'idées, on a plein d'envie, mais en fait, on a super peur que personne ne nous aime et faire quelque chose. En se disant, ok, c'est pas grave si ça, s'il y a un échec, c'est pas grave si ça plaît pas, c'est pas grave si moi-même je me retrouve pas là-dedans, et ben ça aide aussi. Enfin, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé de pas forcément mettre trop d'importance sur ce projet qui faisait déjà d'une certaine manière partie de ma vie en fait. Enfin,
Ouais,
je
je
me suis, j'ai
comprends.
pas conceptualisé l'entreprise en tant que projet, quoi.
Ouais, c'est ça, tu y allais et c'était fluide, quoi. Ouais, trop
Ouais.
bien. Et la troisième chose du coup que tu aimerais mettre en lumière, si tu en as une, hein, t'es pas obligé.
Si j'en ai une, bah, écoute, je vais essayer de réfléchir. On va peut-être essayer d'un point de vue de lancement, c'est vrai?
Ouais, dans ton
Au
lancement, tu
départ, le
vois,
départ du
vraiment,
départ.
tu vois, ces épisodes, j'ai vraiment envie qu'ils permettent à des photographes de comprendre un petit peu les coulisses, de voir qu'il n'y a pas un seul chemin possible. Et de se dire, OK, en fait, c'est ces petits trucs qui semblent peut-être anodins, tu vois, de dire, bah, tu as dit c'était facile, de dire, tu as dit les rencontres que tu as fait, qui ont été un vrai booster pour toi, tu vois. Donc, au départ, est-ce qu'il y a une troisième chose qui a vraiment fait une différence dans ton activité?
Alors, je pense que au niveau on va dire, j'aime pas trop ce mot, le succès, mais en tout cas, au niveau de la, quand je me suis lancée, j'ai tout de suite eu plein de clients quand même. Et ça, je pense que c'était lié vraiment, encore une fois, mais tout est relié, hein. T'es dans un microcosme dans lequel tu crées, où tu te sens bien, où t'es à l'aise, où tu dis que t'as une famille créative. D'autre part, il n'y a pas trop d'enjeux et tu continues de croire que t'es un peu à l'école et que tu peux encore faire des erreurs et tout. Et donc, tout ça fait que tu dégages une forme de naturel vis-à-vis du client, de tes prospects, où les gens se disent, ah bah, c'est du plaisir pour cette personne-là d'être avec nous. Et quand t'es heureux, en fait, tu vois, t'es à ta place, en fait. Et d'une certaine manière, cette place-là, elle est hyper importante commercialement parlant, puisque tu crées du désir chez ton client. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu quand même. C'est-à-dire que déjà, quand j'étudiais aux Beaux-Arts, bon, moi, qu'est-ce que j'aime faire? Et comment je peux le produire des choses qui font que le plaisir, il se sent immédiatement. Eh bien, c'est en ayant du plaisir dans le faire. Et donc, du coup, ça, je pense que dès 2012, j'avais des clients qui étaient satisfaits et qui, naturellement, le bouche à oreille derrière, ça a été rapide parce que c'était joyeux et c'était simple en fait dans la relation client. Il n'y a pas eu de je vais essayer de gagner une clientèle qui me correspond. Enfin, en fait, dès le début, j'ai eu des personnes qui m'intéressaient, qui m'inspiraient. Je sais pas, c'est peut-être une question de chance aussi.
Ouais,
Voilà, là,
c'est
là.
dur à évaluer la chance toujours, mais en tout cas, je trouve que c'est hyper inspirant encore une fois parce que tu sais, moi je le caractérise ça avec un petit peu l'énergie du manque parfois. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis, tu vois, c'est que c'était assez fluide. En fait, t'as kiffé quoi, tu vois, tu t'es lancé avec kiff, avec joie et tout. Et forcément, quand tu es heureux d'être là, bah, les gens ils sont trop contents parce que bah, du coup, ça leur renvoie aussi cette image-là, ils ont envie d'en parler. Alors qu'à l'inverse, quand tu es dans le manque, quand tu es dans la peur, quand tu es dans la friction, c'est pas vendeur quoi. Si tu viens, dis achète mon truc, bah, y a personne qui va venir t'acheter ton truc quoi. Donc, trop bien, franchement, trop trop
Faut
bien.
voir au début qu'avec Ronan, on était quand même sur le bon coin. C'est l'époque où on n'était pas, voilà, et où c'était écrit photographe pas cher en Normandie, hein. Faut voir ça. Parce que voilà, quand je dis il n'y avait pas de pression, et à la fois, je faisais quand même des photos artistiques, des délires où je faisais des photos de main très près, et c'était des clients qui nous disaient, mais vous avez vraiment un truc, c'est génial, mais il y avait ce côté tellement vraiment sans aucune ambition qui fait que je pense que ça a joué sur le. Ah, peut-être qu'on n'était pas cher aussi, c'est pour ça que ça a marché. C'est horrible.
un euro le mariage, alors du coup ça marchait bien.
Non, mais en vérité, c'est vrai que après, ça c'est quand on démarre et qu'on est jeune. Enfin, pour le coup, je sais pas, j'avais 25 ans, je sais plus. Et oui, c'est ça. Bah oui, j'avais 25-26 ans. Et on voilà. Moi, j'avais un autre. Enfin, je faisais d'autres trucs à côté, quoi. Je vendais encore des polaires sur les marchés. Donc,
Encore une fois,
c'était, il
il
n'y
y
avait
a le
pas une
côté
importance.
pas d'enjeu, quoi, en fait.
Toujours ce truc-là, ouais. Et donc, du coup, tu dégages une image de plaisir aux gens. Les gens, ils sont là, ils se disent, mais en fait, tu t'éclates dans ton travail, il faut que tu continues. Bah, je vais donner ton nom à mon pote. Et ça s'est fait assez
Oh
simplement, en fait.
là là, c'est trop bien, j'adore. Franchement, j'aurais un million de questions à te poser. On va rester sur le planning du jour.
Oui.
Trop bien. Franchement, merci pour tes trois partages parce que je pense que c'est hyper pertinent. Souvent, je pense qu'on veut chercher à trop complexifier les choses dès le début, où il y a un peu, tu parlais de ce côté un petit peu indirectement de trop de réflexion. Tu vois, en fait, on veut déjà être le photographe qu'on sera dans 10 ans parfois. Tu vois, pour les personnes qui sont un peu dans le mental ou qui se projettent et tout, qui se posent beaucoup de questions. En fait, la
Ouais.
difficulté de ça, c'est qu'en fait, on prend pas plaisir dans les petites étapes du début où justement il y a moins d'enjeux, où elles ont besoin d'être plus légères, où nos prix sont peut-être un peu plus bas et tout ça, et on peut se mettre une pression rapidement. Donc franchement, merci Solveig pour tes trois partages.
Bah, merci à toi.
Ma seconde grande question est quelle stratégie tu conseillerais aujourd'hui à un ou une photographe qui veut vraiment développer son activité?
Alors, ça, c'est délicat, parce que comme tu as entendu ma stratégie, il n'y en avait pas trop au départ.
Ben, pourquoi? Ça peut être une stratégie, hein?
Non, mais je pense que clairement, il faut être conscient du marché quand même. Oui, là, je ne suis pas non plus complètement dans la naïveté totale. Quand j'ai démarré en 2012, le marché n'était pas le même que cette année. Je crois que la Marie aux pieds nus, le blog de mariage, c'était, je crois qu'il avait peut-être 1 an, 2 ans. Enfin, en réalité, le monde du mariage, en tout cas le monde de la photo sociale, il était pas encore ultra créatif. Je pense qu'il y avait des photographes traditionnels, les photographes un petit peu plus créatifs, et enfin voilà, même si traditionnel ça peut être créatif aussi, mais en tout cas le marché n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et quelqu'un qui se lance aujourd'hui, des fois moi je rencontre des gens qui ont 20 ans et qui ont déjà des épaules incroyables au niveau business, marketing et tout, et moi je comprends rien à ce qu'ils racontent. Parce que je ne suis pas de cette génération-là, je pense. Et clairement, aujourd'hui, quand on se lance, à mon avis, vu le nombre de photographes sur le marché, il faut quand même avoir déjà d'une part un discours, très probablement, puisque tout est assez intellectualisé aujourd'hui, et savoir pourquoi tu fais de la photo, comment et qu'est-ce que tu désires faire, en fait, et qu'est-ce qui fait ta spécificité, c'est quand même assez important. Même si je pense qu'on a tous une spécificité, il faut creuser et voilà. Ensuite, connaître un petit peu aussi le marché, avoir donc des collègues, s'entourer, bah, encore une fois s'entourer, pour savoir un peu à quelle valeur on peut se mettre et par rapport aussi à nos besoins financiers qui sont différents d'à mon époque, puisque à mon époque, en effet, bah, j'étais jeune, j'avais un petit boulot. Ronan, il a gagné déjà un salaire normal puisqu'il était militaire. Enfin bref. Donc, quand on se lance à son compte aujourd'hui, par exemple à 20 ans, si on n'a pas forcément fait d'études, enfin, tout est à prendre en compte. Donc, et aussi, je pense qu'on ne peut pas non plus y aller complètement à la one again en disant ouais, j'ai envie de m'amuser. Enfin, après, si, peut-être, j'en sais rien en fait.
Est-ce que tu vois, quand on discutait, tu me disais que tu avais moi, c'est toujours ce que j'ai vu chez toi, tu vois, mais tu me le disais récemment, tu avais une part d'intuition importante. Tu vois, est-ce que
Oui.
tu penses qu'aujourd'hui ça peut faire partie d'une stratégie, ce côté intuitif? Tu vois, ce que tu dis finalement, je suis d'accord avec toi sur le marché, il a quand même énormément évolué. Moi, j'ai démarré en 2012 aussi, comme toi, et clairement en 2012, c'était un peu guinguette, tu vois. Tu te lançais dans le truc, c'était assez fluide et tout ça. Attends, il y a un petit bruit, non? C'est moi?
Non, c'est chez moi,
Ah,
désolée.
ok, d'accord. Non,
C'est un retour photobooth.
ça marche, non, mais je me suis demandé si c'était chez moi ou quoi. Et du coup, tu vois, moi j'ai démarré dans le mariage en montrant des photos de gens en lévitation dans des champs de blé, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'était assez improbable en fait. J'ai des mariés qui m'ont dit, ah, mais c'est trop bien et tout, mais je ferai pas ça. Bah, oui, il n'y a pas de problème, mais t'arrives à faire ça, donc on te prend. Et comme tu dis, je pense qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'être plus structuré. On a accès à l'information aussi, à la formation de manière beaucoup plus poussée. Donc ça change énormément. On peut progresser beaucoup plus rapidement.
Oui.
Mais vraiment cette question de est-ce que tu penses que l'intuition peut avoir sa place dans une stratégie aujourd'hui?
Toujours. L'intuition, c'est la base. L'intuition, c'est s'écouter, écouter ses désirs, écouter sa petite voix intérieure qui dit bah si tu penses que dans ce domaine-là tu vas te faire chier, bah faut pas y aller. Pour moi, l'intuition, c'est vraiment la base de l'entrepreneuriat, parce que quand tu es entrepreneur, tu te jettes toujours un peu dans l'inconnu d'une certaine manière. Donc si t'as pas cette écoute de ton instinct, je pense que tu peux carrément te ramasser ouais, des claques. Et après, c'est intéressant aussi de se tromper.
Ouais.
Mais il faut s'écouter, c'est clair. Et puis, je pense que... Et puis, après, on n'est pas tous intuitifs, hein, mais globalement, quand je dis s'écouter, c'est aussi faire ce qui nous semble bon pour nous-mêmes et essayer vraiment de respecter aussi. Respecter nos idées, nos envies, et pas faire comme... Il faut pas faire ce que vous racontent les gens, en fait.
Donc là, n'écoutez pas du tout ce que dit Solveig. Non, mais c'est très juste ce que tu dis.
Genre, m'écoutez pas, je dis n'importe quoi, en fait.
Non, mais après, ce que tu dis, c'est assez. Tu vois, c'est soyez à l'écoute de vous-même, finalement. On parle d'intuition, ça peut être aussi pour les personnes qui ont plus de mal avec ces côtés intuition, essayer de voir les ressentis de est-ce que je prends vraiment du plaisir ou pas à faire ce que je fais, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller, est-ce que je pourrais le faire différemment, quoi. Mais
Oui.
je pense que c'est un très bon conseil stratégique, en fait, de se former et puis en même temps d'être à côté, à l'écoute un maximum de ce qu'on ressent, quoi.
Oui, voilà, et puis de dire là, il y a quelqu'un qui m'a conseillé de faire comme ça, mais j'ai l'impression que ça me correspond pas. Et en fait, faut faire ce qui nous semble juste par rapport à notre tempérament. Ronan, donc il est super différent de moi et très rapidement il s'est tourné vers la fabrication de photobooths, la vidéo pour m'accompagner et avoir le moins de contact possible avec tout ce qui est organisation des mariages, relations clients et tout. Il s'est écouté et c'est ce qui lui réussit. Et moi, j'ai continué vraiment encore plus à fond dans le relationnel. Enfin voilà, on a le droit d'être différents et avec nos personnalités, il faut vraiment faut composer quoi, faut se respecter aussi. C'est aussi un rapport sain en fait de dire qui je suis. Enfin, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles. Et si tu insistes trop à dire, alors mon point faible, j'essaie de le transformer, j'essaie de m'améliorer, ben si c'est horrible en fait parce que tu te fais mal à toi-même, quoi. C'est...
Ouais, je suis carrément d'accord avec ça. Trop bien. Ce que je prône de tout le temps, de toute façon, ce côté écoute de soi et tout. C'est pas pour rien qu'on est là aujourd'hui tous les deux.
Ouais, oui.
Et ma dernière question, ça fait donc 10 ans depuis 2012 que tu es dans la photographie. Comment tu perçois un petit peu l'évolution du marché de la photographie pour ces prochaines années?
Alors, c'est la question super difficile.
Question piège. Dans dix
Comme
ans,
je
comment ça,
l'ai...
tu t'en seras où?
Voilà. En vrai, moi, je suis vraiment pas une visionnaire. J'ai l'impression que je vogue un peu comme ça à l'intuition. J'ai pas d'idée. C'est compliqué pour moi de savoir. Alors aujourd'hui, voilà comment il est le marché pour moi de la photo. En tout cas, photo sociale, photo de famille, photo de mariage. On est très nombreux, il y a une énorme offre, il y a beaucoup de mariés, il y a beaucoup de mariages. 2023, par exemple, apparemment, ça va être une année où il y aura peut-être le plus de mariages depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a une offre, il y a une demande. Je crois que tout le monde aussi est d'accord de dire que bah, on aura toujours besoin de photographes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut rassurer les personnes plus anxieuses. Mais après, je peux pas enfin, deviner l'avenir. Dans ce que je ressens aujourd'hui, je vois que la vidéo se développe énormément. Quand j'ai des collègues photographes qui me parlent en privé en me disant, j'aime bien la vidéo. Est-ce que Romain il fait des formations vidéo et tout? Donc non, on n'en fait pas de formation vidéo. Je recommande quelqu'un d'autre en général qui s'appelle Clémentine Faucheron. Mais clairement, pour moi, la vidéo, c'est un métier d'avenir. Alors, du coup, on switch sur un autre sujet, mais j'ai l'impression que la vidéo, ça se développe, mais tellement. Nous, on n'a jamais eu autant de demandes de vidéastes seuls
D'accord.
que depuis 1 ou 2 ans. Donc, voilà, le marché de la photo, enfin, est en train de bifurquer vers le marché de la vidéo. Je pense que ça ne va pas remplacer la photo. pour autant. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une sorte de pan complémentaire de la photo, comme si c'est, bah, pour le coup, nous, en plus, en tant que duo, on le ressent. C'est-à-dire que on nous demande de plus en plus le fait d'être deux, parce que les gens voient ça comme quelque chose de très complémentaire. Je pense que c'est lié à l'habituation de ce format-là avec les réseaux sociaux aussi. Enfin bon, bref. Après, voilà, le marché de la photo des 10 prochaines années, j'espère que ça va se développer encore et que ce sera aussi riche qu'aujourd'hui. Mais c'est sûrement lié aussi aux événements politiques, économiques, écologiques. Donc, on ne peut pas savoir. Ce que je sais au niveau écologique, c'est qu'il va falloir qu'on se déplace peut-être un peu moins, qu'on fasse peut-être plus les choses à domicile. Donc, moi, j'essaie aussi de me recentrer sur ma région. Voilà, c'est les quelques trucs que je peux imaginer, dire, mais après, j'ai pas forcément une vision globale, quoi, sur le marché de la photo.
Ouais, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est pas une question évidente. Et puis c'est un peu, voilà, c'est un peu des suppositions qu'on peut faire. Mais tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant le côté synergie photo-vidéo. Et je pense que ce sera un pan important aussi parce que, comme tu disais, de mon point de vue, la photo, elle sera loin de disparaître. Parce que en fait, c'est des choses qui sont complètement différentes d'avoir une image. Moi, tu vois, j'ai des photos, des images de moi petit, des choses comme ça. Et en fait, la vidéo, ça demande aussi un support supplémentaire, un support numérique, des choses comme ça. Mais du coup, c'est à
Oui.
prendre en compte peut-être ces synergies-là. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, qui je trouve très pertinent, c'est le côté. Tu disais en 10 ans, finalement, l'évolution, ça a été de mettre beaucoup plus en avant son pourquoi. Indirectement, ce
Oui.
pourquoi on le fait, ses valeurs et tout. Et moi, j'ai l'impression que ce sera une vraie tendance de plus en plus de mettre en avant autant son travail que ses valeurs, que son message. Tu parlais de message, et que c'est ça qui va vraiment faire une différence de plus en plus, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le fait que beaucoup de photographes aient accès à l'information et à la formation peuvent devenir bons rapidement. Et une fois que, donc, je trouve que c'est positif, parce que ça veut dire que le marché, globalement, en 10 ans, il s'est professionnalisé, donc le niveau a augmenté, enfin, tout ça est plus chouette.
Oui.
Et du coup, la conséquence de ça, c'est que pour se démarquer, ben, il reste soi, en fait, de pourquoi on le fait, de quelle est sa plus-value, quelle est sa singularité, et comment on la met en lumière. Et je pense que le métier. Pardon, vas-y.
Non, c'est moi qui te coupe. Mais je vais rebondir avec ce que tu dis là, avec une petite analyse sociale qui a un reflet avec ce que tu expliques sur le pourquoi et sur l'individualité, sur aussi le personal branding, finalement, hein, ça fait partie un petit peu du business. On est dans quand même une période de crise depuis 2020. Donc, qui dit période de crise dit de manière sociétale, globale, les gens ont besoin de se recentrer sur l'humain, ont besoin d'un contact, d'un lien. En fait, et de comprendre aussi à quoi, qu'est-ce qu'on consomme, à qui on fait appel, et donc il y a une forte individualisation de la consommation qui est liée à ce besoin de se rassurer, de se rasséréner par rapport à la période dans laquelle on vit, qui est quand même spéciale. Et il y a aussi toute cette enfin le côté impersonnel de nos vies qui sont de plus en plus robotisées, on va dire voilà, informatisées, qui fait que en contrepartie les gens ont besoin de vérité, de liens et de se connecter les uns aux autres. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est quand même très réel, et c'est une tendance dans mes clients qui me disent souvent nous on a l'impression quand on te voit en séance, avant, vu qu'on t'a vu sur Insta, qu'on t'a vu sur ton site internet, on a l'impression de te connaître. Et en fait, ils adorent, il y a une identification, et ça, c'est parce qu'en fait, ça rassure. Et c'est lié clairement pour moi à cette période de crise dans laquelle les gens ont vraiment besoin de choses tangibles sur lesquelles se raccrocher, et vraiment, il n'y a pas plus tangible que le lien humain. Et que la relation individuelle avec des personnes, bah, aller au commerce, aller au marché, aller voir un commerçant et lui parler, enfin, Pour moi, ça c'est une valeur sûre, en fait.
Ah ouais, c'est hyper pertinent, je trouve. Franchement, c'est trop intéressant, je trouve. Alors là, on pourra en discuter des heures. On est bavards tous les deux.
Ouais, c'est clair.
Trop, trop bien. On arrive à la fin. J'ai une dernière petite question pour toi, Solveig. Pour les personnes qui veulent découvrir ton travail, qui ne te connaissent pas, qui veulent te suivre, qui veulent créer du lien social et te contacter, et ceux qui veulent se marier, t'avoir comme photographe ou te réserver une séance, ils vont où?
Alors, sur mon site internet, donc on va dire notre site internet, aïe aïe aïe, donc c'est solvegandronan.com, tout simplement.
Je mettrai le lien en
Solvegandronan, parce
description.
qu'on a voulu un côté international qui n'est plus forcément trop pertinent aujourd'hui, donc ça fait partie des choses qu'il faut que je repense. Voilà. Et sur Insta, c'est pareil, donc Solvegandronan. Tout simplement. Donc, c'est nos deux prénoms avec end au milieu.
Trop bien. Merci du fond du cœur. Franchement, c'était hyper pertinent. Je trouve que tout ce que tu as partagé était assez ouf.
Trop
Et je
mignon, bah
pense
merci
qu'on
à
se
toi.
refera une petite interview beaucoup plus longue parce que du coup, il y avait trop de sujets. Je pense qu'il faut qu'on creuse.
Ça, oui, alors faut faire attention parce qu'avec moi, ça peut partir un peu dans tous les sens. Beaucoup de digressions. D'idées qui sautent de l'une à l'autre, mais c'est super, c'est un plaisir de discuter avec toi et voilà, je suis ravie aussi de cette petite intervention.
Trop bien, merci Solveig, passe une belle journée.
De même.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci du fond du cœur à Solveig pour tous les conseils qu'elle a partagés. Je ne sais pas toi, mais personnellement, j'adore rentrer dans la tête d'autres photographes pour comprendre leur état d'esprit et mettre en lumière les stratégies qui fonctionnent le mieux pour eux. Et du coup, en parlant de stratégie et d'état d'esprit, j'ai le plaisir de t'annoncer que Solveig fera partie des 8 mentors de mon prochain programme d'accompagnement. Alors, si tu veux avoir la chance d'échanger de vive voix avec Solveig, tu peux dès aujourd'hui rejoindre la liste d'attente du Winter Club pour recevoir le programme complet et en avant-première à partir du 21 octobre. Je te dis à demain pour la seconde interview de cette série d'épisodes de podcast. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce dernier t'a plu, je serais très heureux que tu laisses un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur Instagram à @jeremyguillaumephoto pour continuer d'échanger et pourquoi pas refaire le monde. Je donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi et continue à kiffer ce que tu fais. Je t'embrasse.